Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission sera disponible en replay sur le site de radiocampusamiens.fr. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Rémi pour l'interview et Colline à la technique. Salut vous deux, comment ça va ?
Salut Romane, ça va très bien.
Bah écoute, bonjour Romane, ça va aussi, merci.
Alors Rémi, qui reçois-tu en ce jour ?
Eh bien j'ai la chance de recevoir Fanny Anicott, qui est directrice de la MAM, la Maison des Associations d'Amiens Métropole. Fanny, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de Radio Campus Amiens. On a l'habitude de te recevoir une ou deux fois par an. C'est la journée internationale mondiale du bénévolat et du volontariat. Peut-être qu'on peut commencer par une petite définition de ces deux termes. Ça veut dire quoi bénévolat ? Ça veut dire quoi volontariat ?
Alors bénévolat, c'est dans une dimension effectivement d'avoir une action avec cette question de non-contrepartie, notamment qui est sur l'aspect financier, avec une démarche qui est volontaire, avec des motivations qui peuvent être multiples et personnelles autour d'un projet collectif. La question du volontariat, c'est encore une autre relation que le bénévolat ou le salariat, où là il y a effectivement des démarches aussi de contractualisation, mais qui peuvent être d'une autre forme encore que le salariat, mais avec toujours cette démarche de contribuer à un projet collectif.
Pourquoi on a eu besoin de faire la différenciation entre les deux, selon toi ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu pourrais répondre
Il y a différentes... parce que aussi, cette forme de volontariat, elle peut être aussi dans différentes formes. Il y a même aussi des dispositifs qui existent et qui sont très précis. Je pense aussi au volontariat international, qu'on peut connaître aussi dans d'autres contextes, et qui permettent aussi de poser des cadres et aussi des formats de relations au sein du collectif.
Tu le sais, les journalistes, ils aiment bien les chiffres. ça représente combien de personnes dans les Hauts-de-France, ces volontaires et ces bénévoles ? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de données ?
Alors,
un Français sur quatre, hein, il me semble, comme
oui,
tu me disais tout à
l'heure. Au niveau national, un Français sur quatre, témoignent ou disent qu'ils ont un engagement qui peut être de forme multiple, effectivement au sein d'une association, donc une entité qui est structurée et qui existe, enfin qui est reconnue juridiquement et moralement. Et puis d'autres, c'est plutôt pour des collectifs informels. En tout cas, un Français sur quatre s'exprime sur cette donnée-là. Et l'estimation du bénévolat en région Hauts-de-France, c'est à peu près, on va dire, près d'un million en fait de personnes qui disent s'engager. Voilà. Même si ce chiffre est toujours très difficile à estimer. Et là, les données que je vous donne, c'est des données qui sont faites au niveau national par Recherche et Solidarité, sachant qu'en Hauts-de-France, nous aussi, on a un observatoire régional de la vie associative, qui aussi travaille sur d'autres données de la vie associative.
C'est difficile à quantifier parce qu'il y a des gens qui sont bénévoles, qui sont engagés, mais ils sont inscrits nulle part. C'est ça, en fait, hein, finalement. On ne sait pas vraiment, ils ne sont pas auprès d'une structure déclarée légalement, ils sont juste engagés. Enfin, comment ça se passe concrètement ?
Oui, voilà. En fait, la question de l'engagement, c'est quand à un moment, on se mobilise pour une cause, pour un collectif. Donc, ça peut être aussi des collectifs qui sont éphémères, qui ne sont pas structurés. Donc, comme je te le disais, sous le statut associatif. Et qui peuvent être à un moment donné, par exemple une cause autour d'un chantier, par exemple, dans son village, où il y a une volonté, effectivement, de s'engager pour soit plaider en faveur ou contre, ou voire autre chose. Et puis, donc, c'est des collectifs qu'on appelle informels qui se créent et qui, à un moment, vont se dissocier et qui n'auront pas d'entité face à face et même une entité juridique qui te permet, après, de pouvoir contractualiser, soit avec une banque, avec un établissement public, un établissement privé. Voilà. Donc, il y a aussi cette forme d'engagement qui existe, donc au sein d'associations ou en dehors.
Est-ce qu'on arrive à dégager un profil type du bénévole ? Je sais que pendant longtemps, on a eu un peu l'image d'Épinal, de la personne qui, une fois à la retraite, décide de s'engager, de donner de son temps libre. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours la même réalité ? Est-ce que cette image d'Épinal est vraie aussi, par ailleurs ?
Alors, cette image existe toujours, effectivement. On a, en fait, dans les différents profils en fait de bénévoles. On va dire qu'on a une répartition un peu de quatre profils à un quart chacun, mais bon, on a quand même une tendance un peu nouvelle mais qui est intéressante. Mais effectivement, ce que tu évoquais, le profil de retraité qui s'engage soit parce que à l'issue en fait de sa carrière professionnelle, a l'envie en fait de continuer à faire bénéficier en fait de sa compétence, de ses connaissances au service de la vie associative, ou parfois c'est complètement au contraire, je veux m'en dégager et aller ailleurs dans un autre domaine que je ne connais pas. En tout cas, on a ce premier quart, on va dire. On en a un autre qui est plutôt, on va dire, les actifs, les jeunes actifs et les deuxième partie d'actifs, on va dire à partir de 50 ans, qui sont aussi dans cet engagement qui peut aussi évoluer. Est-ce qu'il serait un engagement hebdomadaire? Est-ce qu'il est sur un engagement ponctuel? Non, on voit aussi une évolution. Il est engagé, on a encore des témoignages, j'en ai eu encore la semaine dernière, où c'est bah, par exemple si vous avez un week-end de manifestation, ce public que j'appelle actif, va vous dire bah, « je ne peux pas me mobiliser les deux jours, par contre je peux me mobiliser une demi-journée et cette demi-journée je serai là ». Donc il y a à un moment, ma mobilisation elle n'est pas la même, mais par contre je suis présent et je tiens mes engagements. Ce qui parfois n'était pas le cas quand on avait une mobilisation beaucoup plus large. Et puis il y a aussi ce profil, j'appelle moi des jeunes, donc de 15-34 ans, hein, voilà, qui maintenant est le premier en fait, profil le plus engagé. C'est-à-dire que sur les quatre profils que je vous ai évoqués, c'est celui qui est le plus important. Il est de 26%. Ce qui est quand même en fait une tendance qui est très... c'est la tendance, l'évolution qu'on observe en fait depuis post-Covid, où effectivement on a eu un impact très fort. Là où avant la majorité c'était effectivement le public retraité, donc plus de 65 ans, et bien maintenant celui qui prédomine c'est les 15-34 ans.
Est-ce que tu saurais l'expliquer cette tendance?
Alors cette tendance, je pense qu'en fait c'est un profil qui n'a jamais eu d'énormes baisses, au contraire il avait une évolution un peu constante, donc elle est toujours en progression. Contrairement à l'autre profil où on a vraiment une chute et en fait, il n'y a pas de reprise comme on pouvait l'imaginer avec un taux qui revient identique avant Covid. Donc on voit aussi que le profil de, on va dire, des retraités ont aussi un énorme changement de comportement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas et je peux le dire, c'est vrai que quand là, on a encore fait un forum cette semaine à l'occasion justement de l'engagement et auprès des futurs et actuels retraités, les représentants des associations étaient en grande majorité des profils de plus de 65 ans. Mais aussi, ce que ça signifie, et donc tu vois, on parlait des différentes formes d'engagement, eh bien, c'est que le profil des jeunes s'engage soit dans des associations qui existent déjà, mais aussi dans leurs propres associations. On le dit toujours, les jeunes ont aussi besoin d'éprouver aussi et de vivre et de construire leurs propres expériences. Et c'est aussi l'occasion aussi de création de nouveaux collectifs ou d'associations qui vont être sur un temps peut-être réduit. Je pense au parcours universitaire, mais pas uniquement. Et puis, ou parfois prendre la relève d'associations. Si on revient toujours sur ce profil universitaire, on sait que, et justement, nous, dans un accompagnement que l'on porte au niveau de la MAM en partenariat avec l'UPJV, c'est justement comment on arrive à travailler ce transfert justement de l'association pour l'arrivée de nouveaux étudiants, parce qu'on sait que parfois l'investissement se fait sur l'année, voire 2-3 ans maximum. Et puis après, il y a le parcours d'études ailleurs ou le parcours professionnel qui arrive et auquel cas on travaille cette transmission.
C'est quoi les bonnes raisons de devenir bénévole? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se pose des questions et qui souhaiterait s'engager? Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui essayer de l'encourager justement à passer le pas?
Alors, je dirais que, en fait, il y a des. Quand on regarde aussi les enquêtes sur les raisons, enfin, un peu les motivations ou les. Qu'est-ce que recherchent les bénévoles, il y a quand même des points communs, mais il y a une relation qui est très personnelle. Enfin, le profil du bénévole est très éclectique, en fait, parce que ça part avant tout de motivations qui sont personnelles. Quand on va s'investir dans une association qui est en lien avec une cause, les trois quarts du temps, c'est parce que ça résonne au fond de nous, soit parce qu'on a vécu cette situation et qu'on veut s'investir dans ce champ-là. Que ce soit après l'engagement plutôt dans le milieu sportif ou culturel, c'est encore quelque chose qui est en lien avec un vécu. Donc les motivations, elles peuvent être multiples. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent, et ce qui est dit en fait, en tout cas dans les études et que nous, on peut avoir sur le terrain, c'est la question de se sentir utile, d'agir généralement pour autrui. Donc vraiment cette question d'altruisme, la cause, je l'ai évoquée, mais aussi la question de la convivialité et de l'épanouissement. Et la question de l'épanouissement, voilà, elle est très, très, on va dire, très personnelle. On peut avoir un épanouissement parce que je ne m'épanouis pas dans un autre cadre qui est plus formel, que ce soit l'école, l'université ou autre, ou un cadre très personnel dans la famille, etc. Et donc le besoin d'être à l'extérieur. En tout cas, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, en fait, qui ont une envie, c'est allez-y, vous avez cette prise d'initiative, c'est très fort chez vous, on le sent, et c'est un bonheur aussi d'accompagner des jeunes, en fait, dans leurs initiatives de projet, parce que je vous parle beaucoup des étudiants, mais aussi, on a tout un pan d'action sur les 12-17 ans, et ils ont plein de motivations, ils ont plein de causes sur lesquelles, ou l'envie, ils ont plein d'idées. Et justement, je pense que c'est ça, ils ont une mine d'idées, et justement, l'idée, c'est plutôt de les accompagner dans ce cap-là. Donc, parfois, ça part de quelque chose qui les interpelle, on va dire, au niveau national, au niveau local. Et puis, parfois, c'est vraiment une envie de dépassement de soi.
On peut peut-être aussi se mettre du point de vue des structures. C'est quoi l'intérêt pour une asso d'avoir des bénévoles sur qui compter au quotidien? Et pourquoi c'est important aussi d'avoir, notamment du coup dans le fonctionnement des assos, un conseil d'administration qui lui aussi est bénévole finalement, ce qu'on oublie parfois aussi.
Tout à fait. Dans les fondements en fait du modèle associatif, c'est un collectif qui se réunit, donc à minima c'est deux personnes, autour d'un objet commun. Voilà, qu'ils ont défini ensemble et ils vont s'organiser pour pouvoir mettre en œuvre et faire vivre cet objet. Et donc, en premier lieu, ce sont des bénévoles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas effectivement cette notion d'avoir un intérêt. Alors l'intérêt, il peut être, on l'a évoqué tout à l'heure, multiple, mais en tout cas, il y a cette donnée en lien, notamment avec le lien avec le salariat et le financier. Qu'on peut, enfin, la grande différence, effectivement, c'est à but non lucratif. Donc en tout cas, tout, ça ne veut pas dire que l'association ne peut pas faire d'excédent avec son activité, mais en tout cas, il doit être réinjecté au projet. Il n'est pas réinjecté via une indemnité ou du salariat, si vous voulez, des bénévoles associatifs. Les indemnités existent, mais en tout cas, ils ne sont pas payés comme des actionnaires, en fait, avec l'excédent que l'activité peut faire. Si je donne un comparatif un petit peu grossier. En tout cas, à la base, une association, c'est un collectif qui s'organise avec une gestion qui est désintéressée et avec cette notion-là. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est le cœur même de l'association. Donc, j'ai envie de dire, pour orchestrer la vie du projet, on a besoin de cette énergie-là. En tout cas, après, comme tu l'évoques, il y a des énergies qui peuvent être multiples. Il y en a, ça va être pour orchestrer, organiser, structurer le projet. Et puis aussi, elle peut agglomérer aussi d'autres énergies qui viennent de façon plus ponctuelle. Si on prend par exemple une association de sport, bah, y a la gestion de l'association en tant que telle, mais il y a aussi les manifestations, il peut y avoir des trails, il peut y avoir voilà, des tournois. Et bien à ce moment-là, on va mobiliser un collectif qui peut être encore de formes différentes, ce qu'on appelle plus ponctuel et de terrain. Et justement, c'est comment on arrive à concilier toutes ces énergies-là.
Peut-être dernière question sur le fonctionnement du bénévolat et son explication avant de rentrer un petit peu sur ce que vous organisez du côté de la MAM justement pour les bénévoles. C'est quoi les limites du bénévolat? Est-ce que toi tu y vois des limites? Je pense par exemple à quel moment on doit se dire « Oh là, là je suis peut-être plus sur du bénévolat, c'est du travail dissimulé ».
Oui, voilà. Alors
quelles sont ces limites et est-ce que tu peux me donner quelques petites réponses à cette question?
Alors là-dessus, justement, dans l'accompagnement que l'on peut mener, on est très vigilant auprès de certaines associations qui nous disent, bah, justement, pour un peu pallier ce côté de le bénévole vient, repart, on ne sait jamais exactement, est-ce qu'on peut compter vraiment sur lui? Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas poser un cadre ensemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas poser une charte? Il y a effectivement des documents qui peuvent exister et même des structures nationales utilisent ces cadres-là. Il n'empêche qu'on est très vigilant justement à ne pas tomber sur... Voilà, quand c'est un volontariat, c'est aussi un cadre dans lequel le jeune s'engage. Hein. Je pense notamment beaucoup d'associations bénéficient ou en tout cas sollicitent le dispositif du service civique. Ce n'est pas encore la même chose, un accueil d'un jeune en service civique que d'avoir un bénévole. Et donc justement, on fait très attention, comme tu l'évoques, sur cette question, à un moment, attention du cadre que vous allez poser, de ce que vous allez imposer à la personne. Il faut garder quand même cette souplesse. Effectivement, il y a des engagements à tenir, mais on empêche à un moment, si on commence à contractualiser d'une forme ou d'une autre, attention, ça peut se retourner. Il n'empêche que tu évoques aussi un autre sujet, c'est effectivement l'investissement, voire le surinvestissement qui peut amener aussi à une dégradation de la qualité. Et nous-mêmes, au sein de la MAM, on parle de la qualité de vie au travail d'un bénévole. Parce que ce qu'il produit aussi est une forme de travail, effectivement, il n'y a pas de rémunération, mais on empêche, il contribue à mettre en œuvre le projet. Et donc, on voit effectivement émerger parfois du surmenage sur des engagés bénévoles, plutôt dans les dimensions un peu de poste à responsabilité, hein, des dirigeants bénévoles. Et là-dessus, justement, on essaye d'accompagner justement pour alléger et peut-être avec eux repenser l'organisation pour pouvoir justement remettre cette notion du collectif au sein de l'association et qui ne se porte pas que sur une ou deux personnes.
Alors justement, transition parfaite, vos dispositifs, ils ressemblent à quoi à la MAM justement pour les bénévoles qui souhaiteraient s'informer, se former, se renseigner tout simplement?
Alors effectivement, sur la question de l'engagement associatif, la MAM a renforcé, on va dire, ses actions et ses services à destination des habitants et des associations. Concrètement, en fin 2022, on avait mené justement, alors en lien avec une enquête régionale qui a été initiée par le mouvement associatif Fauve France, hein, qui est un réseau régional de représentation du tissu associatif, c'était associé avec l'Observatoire régional de la vie associative, et a souhaité effectivement faire une photographie de la situation du bénévolat. Et ben nous, on s'est emparé de cette enquête au local, et on a eu un retour de près de 150 associations qui nous ont témoigné, tu vois, un peu les leviers, la situation, est-ce que vous en êtes, c'est quoi vos difficultés. Donc, ce qui nous a permis de se dire, ok, d'accord, c'est quoi les forces du bénévolat au niveau d'Amiens Métropole et quelles sont ces difficultés, et là, on doit avancer. Et donc, en faisant cet état des lieux, on s'est dit, ok, ils ont besoin et ils témoignent un besoin d'outillage. Donc, pour ça, on a mis en place un temps fort en 2023 qui s'appelle Bénévolution, qui a été un one shot, alors peut-être qu'il se renouvellera, mais tu vois, c'est une forme d'accompagnement où les assos se sont réunis, on a parlé d'outillage, elles ont parlé de bonnes pratiques, et de là, on a renchéri d'autres outils. On a aussi développé, on a une plateforme de formation en ligne aussi qui s'appelle EVA, formation des bénévoles en ligne, qui sont vraiment, on va dire, une dizaine de modules sur la gestion associative. On a remis à jour notre module autour de l'engagement avec de l'outillage. Petit teasing, il est lancé officiellement aujourd'hui, la journée du bénévolat.
En exclu sur l'antenne de Campus Amiens.
Voilà. Et en même temps, si vous voulez, on continue à faire des plans de formation parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'être outillés sur... Ok, d'accord, je dis que j'ai pas de bénévole, mais est-ce que je sais formaliser mon besoin de bénévolat? Est-ce que je sais aussi peut-être changer un peu les habitudes d'organisation pour accueillir un bénévole? Comment je fais, en fait, faciliter cette notion de convivialité qui est vraiment un des moteurs pour l'engagement au bénévolat? Donc, c'est comment on accompagne aussi les associations à se remettre aussi un petit peu en question. Ça ne veut pas dire que ce qu'elles font, c'est mal, mais à se dire, au lieu de me dire, bah, y a personne qui veut s'engager, c'est comment moi je fais en sorte qu'en fait, un bénévole se sente accueilli, se sente à l'aise et se dise, bah voilà, allez, je passe le cap du premier pas d'un engagement ponctuel qui peut amener à de la responsabilité. Et puis, dans les besoins, on a aussi identifié le besoin d'être accompagné à la montée en compétences, notamment sur les postes, tu vois, qu'on évoquait un peu administrateur-dirigeant, et auquel cas, on a renforcé notre formation de bénévoles sur bah, c'est quoi les fonctions de trésorier, comment écrire une réponse à un appel à projet, comment constituer un budget prévisionnel, etc. Donc, c'est pas en notion directe avec l'engagement, mais c'est justement à être en capacité de se sentir à l'aise dans la gestion d'une association. On a même développé ce qu'on appelle le CFGA, Certificat de Formation à Gestion Associative, qui est un certificat défini par l'État, qui permet de la théorie et de la pratique. Donc, tu vois, c'est plein de ressources.
Je précise qu'il y a une salariée chez vous qui est dédiée à cette question-là,
voilà.
Qu'il y a aussi régulièrement un agenda de la MAM qui est publié, donc on peut aller retrouver les différentes formations, les différents ateliers. Tu me parlais de dispositifs à destination des jeunes spécifiquement, est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu?
Alors, avant ça, un autre petit teasing,
parce que
c'est la journée du teasing, mais justement sur les derniers outils et facilités, dans les besoins des associations, c'est pouvoir à la fois formaliser leurs besoins en bénévolat et rencontrer des bénévoles, et en même temps, nous, à l'accueil, on a beaucoup de sollicitations d'habitants, de jeunes, moins jeunes, ou de jeunes, futurs jeunes bénévoles, au sens large, qui nous disent « on a envie de s'engager, mais on ne sait pas où ». Et justement, là, depuis 2 ans, on a expérimenté justement la question de la mise en lien. Donc, si on va sur notre site internet, on a à peu près 80 fiches missions qui sont référencées et qui sont notamment à partir notamment de forums des associations Agora. On a quand même 230 associations, 8000 visiteurs. On s'est dit « c'est le bon moment pour faire le smatching ». Entre guillemets, en plus d'aller s'inscrire à une activité, découvrir une activité, c'est surtout peut-être potentiellement s'engager. Donc ça fait 2 ans qu'on fait ce travail-là. Et à partir de l'année prochaine, on va justement mieux développer notre site internet et notre plateforme pour pouvoir justement faciliter l'accès à l'information sur quelles sont les missions qui existent sur mon territoire et aussi aux associations de mieux valoriser leurs besoins. Mais ça s'accompagne avec de l'humain, comme tu l'as dit. Donc chez nous, on a accueilli Candice depuis 1 an et demi. Donc si vous avez envie d'informations, n'hésitez pas à nous appeler, à venir sur place. On est à l'espace de Wailly et de rencontrer Candice pour plus d'infos.
Merci pour ces infos. Et du coup, je reviens à ma question sur les dispositifs jeunes. Vas-y, je t'en prie.
Alors justement, comme tu l'évoques, en fait, il faut savoir que, alors là, petit profil, enfin focus au niveau des étudiants, il y a aussi une reconnaissance possible de l'engagement avec des modules engagement spécifiques. Donc l'UPJV, via la direction vie étudiante, fait tout un travail de sensibilisation aux possibilités d'accéder en fait à ce module-là et à la valorisation dans le cadre de leurs études. Et nous, on a un partenariat depuis 5 ans avec l'UPJV justement pour accompagner ces jeunes, qu'ils soient mobilisés dans des assos étudiantes ou autres associations, pas automatiquement étudiantes, justement à pouvoir travailler à la montée en compétences et la reconnaissance de cet engagement qui se reconnaît eux aussi dans la valorisation au niveau des points des études. Donc ça, c'est un dispositif spécifique en lien avec la vie étudiante et sur lequel nous, on est fortement en partenariat avec l'UPJV. Et puis aussi, on continue à travailler plutôt sur l'axe jeunesse 12-17 ans. Donc là, c'est plutôt un partenariat qu'on a avec la CAF et le service jeunesse de la ville d'Amiens, justement pour travailler à cette notion d'engagement au sens large, même si c'est sur des engagements éphémères, même si c'est sur des mises en situation. Mais c'est justement sensibiliser à cette notion aussi de ce qu'est l'association, ce que c'est un mode de gouvernance en collectif, démocratique, de comment on se constitue, comment on se sent à l'aise pour pouvoir un peu structurer un projet et pourquoi pas passer le cap.
Merci pour toutes ces infos et toutes ces explications. C'est quoi pour terminer l'interview, c'est quoi les prochaines échéances de la MAM? Est-ce qu'il y a des moments un peu importants là qui arrivent chez vous ou des temps forts, voilà, tout simplement?
Alors effectivement, j'ai fait pas mal de petits teasings sur nos plateformes et nos outils, notamment la formation autour de la formation de bénévoles. On a notre programme de formation du semestre, premier semestre 2025 qui arrive à la rentrée, donc en janvier. On a effectivement notre plan de formation jusque juin qui va sortir. On aura un gros temps fort effectivement en début 2025, c'est le 26 février 2025, qui s'appelle Carrefour Expert et Mécène. Donc c'est la possibilité pour les porteurs de projets et associations de rencontrer à la fois toutes les structures qui gravitent autour de la vie associative pour les accompagner. Donc ça va de la MAM jusqu'à des organismes de formation pour les structures employeuses, ça peut être les services de l'État, enfin voilà, une trentaine d'acteurs, et en même temps la possibilité de rencontrer en face à face une dizaine voire quinzaine de fondations privées en fonction des projets, en fonction des appels à projets de ces fondations et des projets. On fait un petit matching en amont pour voir les compatibilités. Ils peuvent les rencontrer en rendez-vous bilatéral pour pouvoir identifier des nouveaux partenariats.
Donc la MAM, c'est des locaux qui se trouvent à l'espace de Vailly à Amiens, si je ne dis pas de bêtises. C'est un site internet, c'est une page Facebook, un compte Instagram.
Oui.
Si on veut vous contacter ou vous rencontrer, qu'est-ce qu'il faut vous privilégier?
Alors, si vous voulez nous rencontrer sur place, n'hésitez pas. On a l'accueil donc tout au fond de l'espace de Vailly. On est ouvert 5 jours par semaine, 8h, 18h et voire 8h... Non, excusez-moi, oh là là, je suis mauvaise. 9h, 18h, lundi, mardi, mercredi et 9h, 17h, le jeudi et vendredi. Sinon, vous pouvez aussi nous appeler. Vous aurez toujours quelqu'un au bout du fil. Généralement, c'est Sylvie en premier lieu. Puis après, vous avez Florent, vous avez Virginie. Donc, c'est au 03 22 92 50 59. Et vous pouvez effectivement nous retrouver sur notre site internet. On a pas mal de ressources, notamment un fichier associatif, quelques ressources aussi d'accompagnement à la vie associative. Donc, mam.fr, mam.fr, et aussi les réseaux sociaux, ce qui vous permet d'avoir un peu l'actualité. Début du mois, fin du mois pour le mois d'après, vous avez toujours notre actualité agenda qui est postée, donc n'hésitez pas à regarder.
Merci beaucoup pour toutes ces infos et puis à la prochaine.
Merci à Radio Campus, c'est toujours un plaisir de venir vous voir.
Au revoir.
Merci Rémi et merci à toi aussi Fanny. Et avant de continuer avec la chronique que je vous ai concoctée, on s'écoute Haha de Denis. Pocket full of green, I gotta smoke. Eyes looking chinky, yeah, I know. Been stressing lately, but tonight I'm litty. Gotta empty out this handy bottle. Been gone, I ain't got a minute. Got my Jada home, but I ain't like a menace, yeah, yeah. But I ain't got no nine when I'm killing. I just bust a rhyme and I'm winning. Hell yeah, how can it be that I'm feeling so low with my soul glow like Daryl's hand at Cardo? Just moved in a condo, style apartment, so I'm Marlboro. Yes, I'm all broke. Can't barely eat, woo, but I smoke dope. I've been thinking about hitting the trap, where some of my d***s is at. They don't want me around, I'm the only one boy they can count on. I swear the money getting lower and lower and lower.
Waiting on Kanye to call like Aloha, Aloha, Aloha. Never die, they win and never cry. Trust me, I'm a real one when there's tears in my eyes. I had a show, they had to die. Get my old version, back multiplied. So on the road, got nothing to lose. Do none of you can't deny. You hearing the music, you feeling the movement. We keeping it moving, we just be going high. With my pockets getting bowed, getting blocked, serving Prada, 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 getting dough, pushing heavy, wrong moves, and it stops. That groove ain't for me. I need more bills in the bed, hitting blocks, helping people. I ain't defying legal, can't cross no border, can't touch no water. Got it straight out of Philly. She bad as bad as big. She living in the Bronx. Just text me, Ben, I can't. I don't know what that mean, but I guess it's come here. I'm repping for the cold. Y'all is the veil. Can't be selling them things. No, can't ride with a nine. Rather hit in the endo and be out for my moms. Papa just let me know. Why am I still in the store? Gotta admit, since you left, never felt like myself, you know. I know that you got my back and even gotta let me know. Man, I'm just hard, but let you go. Me never fold, never made. Never ever gonna diss straight. Reopen the door. Left it for us to go in straight. Cardi Chaka Sock appreciated. West William the God initiated. They got fly fly Kente for us to drop by and win straight. Got nothing to lose. Do none of you can deny. You hearing the music. You feeling the movement. We keeping it moving. We just be going high, high. Goofies. Man, we been throwing. The flames and the bullshit. The rain, the hate is rain. By fronting on all of this cool. We just be going high, high. Funny style. Just the way that you're moving.
Vous écoutiez Haha de Denis et elle est passée dans Anora. Donc on enchaîne avec ma chronique qui revient sur ce dernier film du réalisateur Sean Baker, récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année. Alors je ne vous cache pas que voulant être correspondante aux États-Unis, il fallait absolument que je voie ce film. Vous aussi, vous avez peut-être pour projet de traverser l'océan Atlantique et il peut être intéressant de prendre la température de votre destination avant de vous y rendre. Mais au-delà de tout ça, tout simplement, si vous aimez vous raborder les sujets de société, ou alors si vous êtes à la recherche d'un film qui représente avec justesse la complexité de nos émotions, Sean Baker a pensé à tout. Anora, c'est une romance et je dirais que c'est surtout une plongée au cœur de la société américaine. En gros, Anora, qui est surnommée Annie, c'est une danseuse érotique qui rencontre Ivan, le fils d'un oligarque russe milliardaire, avec qui elle entame un conte de fées, mais ils sont vite rattrapés par la réalité. L'histoire, elle dénonce l'écart criant des niveaux de vie dans un pays qui est censé être la première puissance mondiale. Annie, c'est une américaine, donc qui vit avec sa colocataire dans les balcons américains populaires qui ressemblent un peu au motel, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est juste derrière un chemin de fer avec le bruit incessant des trains qui passent. Alors que lui, Ivan, il vit plutôt dans une luxueuse villa digne des gated communities, en fait, ces quartiers fermés comme par exemple Beverly Hills, hein, dans la banlieue de Los Angeles. Et c'est aussi un rappel que les statuts et les origines rendent des amours impossibles. Les parents d'Ivan hein, souhaitent voir leur fils marier une personne issue de leur milieu, alors forcément ce n'est pas le cas d'Anora, à qui on a collé malgré elle l'étiquette de prostituée. Et bien souvent, les travailleuses et travailleurs du sexe sont déshumanisés. Hein. On le voit avec la mère d'Ivan qui ne prend pas la peine de s'adresser directement à elle, et en fait c'est comme si Annie, elle n'était pas dans la pièce à ce moment-là. Ces injustices, elles se traduisent aussi au sein du système judiciaire parce que là-bas, plus on a d'argent et plus on a de chances de s'en sortir. Et Anora, elle, elle part avec un handicap quand elle veut sauver leur mariage à Las Vegas. Du coup, on retient son souffle, on enrage avec elle aussi et on a espoir qu'elle réussisse quand même malgré tout. Et il faut dire que Mikey Madison, qui joue Anora, a su rendre son personnage attachant. L'actrice, en fait, elle s'est rendue dans les clubs de Miami, etc., pour voir s'imprégner de cet univers, de la mentalité et du fort caractère des danseuses. Alors, on est certes au plus proche de la réalité, mais n'oublions pas aussi qu'il y a cette touche d'humour qui allège le drame. Et si vous êtes un expert des romances clichés, eh bien, gare à vous, je n'étais pas la seule à être estomaquée par la tournure du film dans la salle de cinéma. Et vous avez de la chance aussi, car à Amiens, le Ciné Saint-Leu diffuse Anora et c'est début janvier. En toute fin d'émission, vous retrouvez Olefi avec le dernier épisode de la thématique « Être une femme en société ». C'est une série de podcasts sur les femmes des Hauts-de-France. Il est maintenant l'heure de finir en beauté cet Infoclub Sandwich en s'écoutant « Bungle Bungle » de Gulsan.
Sıfır aldın.